réjouis de ce que je viens d'entendre de la bouche de Johan, qui me dit que je suis une nouvelle créature. Je viens de fêter mes 59 ans. Je suis une nouvelle créature. Amen. Merci, Amen. Voilà, je vous invite à la prière avant d'étudier la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu nous le redis dimanche après dimanche. À tes yeux, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes comme tout neuf devant toi. Parce que le vieil homme en nous est mort. Nous sommes ressuscités avec le Christ, d'ores et déjà. Et tu nous donnes ta parole pour nous enseigner, encore et toujours, sans te lasser, avec fidélité, avec beaucoup de pédagogie. Alors cette parole qui est si précieuse, Seigneur, aide-nous à la comprendre, aide-nous à l'intégrer dans nos vies. Aide-nous à en faire profit. Que ce qui sera dit maintenant soit résonne toute la semaine et bien après, pourquoi pas, dans nos vies. Comme la manifestation de ton amour pour nous et pour le monde. Amen. Alors aujourd'hui, la lettre aux églises, c'est la deuxième. Je vous rappelle le principe, rapidement, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que notre union d'églises, une EPREF, a souhaité chaque mois envoyer à toutes les églises de l'Union une lettre avec un sujet à méditer, un sujet, je dirais, fondamental pour la foi, de façon à ce qu'en même temps, toutes les églises de l'Union puissent se réfléchir sur ce sujet. Voilà, donc on a commencé, alors on a un décalage de mois, celle de janvier, on l'a étudié le mois dernier, et ce mois-ci c'est la deuxième. Le titre c'est « La mission de l'Église ». Grand chapitre, la mission de l'Église. Et donc, comme à chaque fois, il y a un théologien, un pasteur, qui a préparé des éléments de réflexion. Donc c'est un peu ces éléments-là que je vais vous présenter, enfin un petit peu à ma façon. Vous pouvez éventuellement retrouver le texte de cette lettre aux églises sur le site de l'UNEPREF. Et puis également, pour ceux qui sont abonnés à Nuance, eh bien, ils l'ont, comme moi je l'ai reçu, sous forme d'une interpage, enfin comment on dit, une insertion entre les pages du journal. Alors, la mission de l'église. Il faut tout de même partir sur la parole de Dieu. Alors, cette parole, elle a déjà été lue tout à l'heure par Anne, à l'instant. Ce sont les deux derniers versets de l'évangile de Matthieu. Donc, Matthieu 28, à partir du verset 19, les versets 19 et 20. Voilà ce que dit Jésus, juste avant de remonter au ciel, à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deux versets bien connus donc, mais qui sont certainement de la plus grande importance, puisqu'il fixe, Jésus fixe la mission à ses disciples, qui leur confie en deux versets, donc deux versets très denses. Alors, est-ce que les disciples ont répondu à cet ordre de Jésus? Eh bien, il faut croire que oui, puisque on va faire un petit peu d'histoire de l'Église, là, très rapidement. Dans les années qui suivent, on voit que les disciples vont implanter des églises, déjà localement, déjà à Jérusalem, bien sûr, puis en Asie Mineure, en Grèce, on voit les épîtres aux Corinthiens, etc., aux Thessaloniciens, en Grèce, ils vont même aller jusqu'à nous, c'est-à-dire l'Europe occidentale, et en particulier en Italie, à Rome, puisque Paul écrit aux chrétiens de Rome. Et donc, ça a quand même été assez rapide, si on veut bien admettre que les chrétiens, les premiers chrétiens de Rome, il y en a eu aussi en Espagne, enfin, ou en Grèce, étaient des contemporains de Jésus, n'est-ce pas? Donc ça a été assez fulgurant, les disciples ont effectivement disséminé la parole de Dieu et implanté des églises, on va dire dans ce qui était l'Empire romain. Et alors très rapidement, on voit dans l'histoire de l'Église que c'est l'Europe occidentale qui va devenir un peu le bastion du christianisme, n'est-ce pas? Ce bastion à partir duquel la parole continuera à se répandre, mais c'est oui l'Europe occidentale qui devient rapidement le pilier de l'Église avec un grand tout. Alors au Moyen-Âge, on peut parler aussi vers la fin de l'Empire romain. Alain nous a rappelé il y a 15 jours que l'empereur Constantin s'est converti, alors il faut mettre beaucoup de guillemets, il s'est converti au christianisme et par la même occasion, comme c'était l'usage à l'époque, tous les sujets d'un royaume ou d'un empire devaient avoir la même religion que celle du monarque. Donc il a décrété du jour au lendemain que l'Empire romain, ou ce qu'il en restait, était désormais chrétien. Alors je dis beaucoup de guillemets parce que on peut se demander quelle est la valeur aux yeux de Dieu d'un décret qui dit que dorénavant telle nation est chrétienne. On se rappelle que Jésus est venu régner sur les cœurs et non pas un pouvoir politique. Mais enfin, finalement, alors, Alain nous a quand même aussi rappelé que ce Constantin était resté profondément idolâtre. Donc vous voyez, mais oui, je me dis que finalement, regardez, le Seigneur a fait avec les turpitudes des monarques divers de l'époque, il a fait avec. Il s'est débrouillé, le Seigneur, pour que sa parole se répande envers et contre tout. Finalement, on peut aussi se dire que pour les chrétiens, c'était peut-être pas plus mal d'être du jour au lendemain dans une nation ou un empire chrétien plutôt qu'être envoyé aux arènes mangé par les lions. Quelque part, ça leur a mis un temps de répit qu'ils ont peut-être mis à profit pour encore essaimer et installer des églises. Au Moyen-Âge, la parole de Dieu va continuer à se propager dans les pays dits barbares, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas romains. Vous voyez, ça s'est diffusé dans le monde connu d'alors. Vous avez par exemple, je vous donne un exemple, l'Irlande a été évangélisée par
Saint-Patrick.
Enfin bon, vous voyez, mais très intéressant, il y a eu des évangélistes qui se sont pris par la main et qui sont allés apporter la bonne parole et l'évangile de plus en plus loin. Bon, mais il faut attendre le 16e siècle, pour que le mot mission de l'Église, la mission, apparaisse dans le vocabulaire chrétien. Le 16e siècle, c'est, vous le savez, le siècle de la Réforme, mais c'est aussi d'ailleurs le siècle des grandes conquêtes, les conquistadors, alors notamment vers le continent américain. Et là aussi, ça a été l'occasion d'une extension, d'une propagation de la parole de Dieu. Alors là aussi, regardez, c'est un peu le même, comme pour Constantin, le même problème, c'est que les motivations des conquistadors n'étaient pas spécialement évangéliques. Comme par hasard, ils sont allés conquérir les pays où ils pensaient trouver de l'or, ou des esclaves, oui, une chose peu recommandable. Mais enfin, ils amenaient avec eux des missionnaires. Et même si on ne peut pas approuver les méthodes utilisées par ces gens-là, parce que vous voyez, ils commençaient par exterminer les populations, et puis les survivants, ils les baptisaient. Bon, c'est pas le genre d'évangélisation qu'on envisage ou qu'on imagine bien. Mais regardez une fois de plus, le Seigneur a fait avec. Et la parole de Dieu et les églises se sont implantées, là aussi en Amérique, et en Afrique, en Asie, partout. Voilà. Un peu plus tard, alors là on arrive à la période presque contemporaine, période de... il y a eu la colonisation, alors avec les mêmes errements, je dirais, la colonisation, la motivation des colons, c'était mettre la main sur les richesses des pays colonisés, n'est-ce pas ? Et là aussi, des missionnaires se sont joints au mouvement et ont pu apporter la parole de Dieu, l'évangile. Et on est arrivé finalement, on arrive à une période qui est toute récente, on va dire deuxième moitié du siècle précédent, donc nous en sommes contemporains, où on peut dire que la parole de Dieu a été semée sur toute la planète. Il n'y a plus un coin du monde, il n'y a pas de coin dans le monde, hein, c'est rond. Il n'y a plus un endroit dans le monde où la parole de Dieu n'a pas été apportée. Alors bien sûr, il y a des pays qui persécutent les chrétiens, mais peu importe. Regardez, même la Corée du Nord qui figure comme numéro un le persécuteur des chrétiens, eh bien il y a une église. Alors elle est souterraine, elle est très discrète, mais elle est là, elle existe. Et peut-être même, j'ose dire que peut-être elle est plus fervente et plus vivante que bien des églises de pays officiellement chrétiens. Alors voilà un peu l'histoire de la propagation, c'est-à-dire comment les disciples, puis les disciples des disciples et des disciples, comment ils ont propagé, comment ils ont obéi à l'ordre de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors là j'avais une petite interrogation quand... J'ignore comment se présente le texte grec à l'origine, mais je me demande comment on peut faire des nations chrétiennes, aller faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que Jésus n'aurait pas voulu plutôt dire aller faire dans toutes les nations des disciples? Parce que c'est ça qui compte. C'est pas de décréter que la France, l'Italie, le machin, l'Espagne soient des nations chrétiennes. C'est de savoir qu'il y a des chrétiens dans ces nations-là. Bon, c'est une petite parenthèse. Suite à la décolonisation, nous est-il dit dans le document, donc le document est signé Evert Van de Pol, je ne connais pas ce théologien, il dit que suite à la décolonisation, l'Église a réfléchi sur l'organisation désormais nouvelle de la mission. Ce qui était nouveau, c'est que comme le christianisme s'était implanté à peu près partout sur la planète, on ne pouvait plus envisager la mission de la même façon. Désormais, ce n'est plus à partir de l'Europe occidentale que des missionnaires s'en vont vers les autres continents, les autres nations, mais dans toutes les nations, il y a des missionnaires qui peuvent aller dans toutes les autres nations. Regardez d'ailleurs, on a un exemple très concret chez nous, hein, on a été tout récemment édifié par des pasteurs qui viennent de Côte d'Ivoire, je parle de Stéphane Couillot, de Centrafrique, Samuel Cabot, qui est venu nous apporter un message absolument extraordinaire, et vraiment un message missionnaire, hein, un message qui d'évangélisation. Dans l'UNEPREF, il y a actuellement, je crois, 4 pasteurs brésiliens qui sont venus pour un temps dans notre union d'église comme pasteurs évangélistes. Donc vous voyez, c'est... D'ailleurs, le comble, c'est que notre continent, Europe de l'Ouest, qui était autrefois la base d'envoi des missionnaires, est devenu le continent le plus sécularisé et le plus déchristianisé du monde. C'est pas moi qui le dis, vous le savez de toute façon, le plus déchristianisé et le plus sécularisé. Est devenu donc ce continent, notre continent est devenu une terre de mission. Carrément, les choses sont renversées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la mission? Le document de Evert Van de Pol précise que la mission que Jésus a fixée, elle concerne d'abord tous les chrétiens, elle est incontournable, ce n'est pas une option. C'est-à-dire qu'il précise que l'Église est de nature missionnaire. Une église qui dirait nous sommes chrétiens, nous vivons l'évangile, mais nous n'avons pas vocation à la mission, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors, Evert Van de Pol insiste sur donc l'intégralité de l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, mais tous les membres de l'église, tout chrétien, a une vocation missionnaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas à certains une vocation particulière et une tâche particulière, hein, bien sûr. Hein. Mais très important, c'est de réaliser que un chrétien est d'abord missionnaire, essentiellement missionnaire. Ceci s'explique d'ailleurs assez facilement, puisque la vocation de l'Église est de prendre le relais de l'œuvre du Christ. Donc Jésus est venu sur terre pendant 3 ans, il a apporté l'Évangile, il a enseigné, etc. Puis un beau jour, il dit, ben maintenant je retourne auprès du Père, à vous de poursuivre l'œuvre, de continuer le travail. Et dans le fond, Jésus n'était-il pas missionnaire? Il n'était que ça. Et on a même appris, rappelez-vous, par Stéphane Couillot, que nous avons un Dieu qui est missionnaire, puisque depuis la création, depuis qu'il a créé l'homme, il ne cesse d'adresser des messages, d'envoyer des prophètes, de... Voilà. Donc, l'histoire, la relation entre Dieu et les hommes, c'est une histoire de mission. Alors ça, c'est une première chose. Quel est le contenu, comment se définit la mission de l'Église, cette nature missionnaire? De quelle façon, je veux dire, l'Église peut-elle être missionnaire? Eh bien, il n'y en a qu'une, mais est-ce une seule façon, mais qui se réalise dans plusieurs domaines? On va voir ça en détail. Cette façon, c'est le témoignage. C'est être missionnaire, c'est rien d'autre chose que être témoin. Témoin de l'amour du Christ pour le monde, témoin de l'Évangile, c'est-à-dire la grâce offerte aux hommes par le Seigneur et par le sacrifice du Seigneur. Le témoignage. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, on peut lire un autre verset, cette fois-ci dans Luc. L'Évangile de Luc, c'est au chapitre 21, et je crois que Anne nous en a fait part déjà, elle l'a évoqué. Luc 21, verset 13, alors verset 12, mais voilà ce que Jésus dit à ses disciples alors qu'il est en train de prophétiser sur la fin des temps, la destruction de Jérusalem, etc. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Intéressant. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Donc Jésus situe une fois de plus ses disciples dans la mission. Et la mission, c'est rendre témoignage. Mais il y a également un texte encore plus, un verset encore plus clair. C'est au début des Actes des Apôtres. Alors vous voyez, on a lu la fin de l'Évangile de Matthieu, les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et on peut reprendre au début des Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres qui sont la continuité de l'Évangile, hein, c'est la suite. Exactement au même moment, c'est-à-dire au moment où Jésus s'apprête à l'ascension, donc à retourner auprès du Père. Et voilà les derniers mots, donc ce sont les mêmes, mais dit autrement, hein, que Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, c'est la même phrase, la même parole, mais dit autrement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, c'est ce qu'il dit dans Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. D'accord ? Alors, très intéressant, la mission, c'est donc le témoignage. Et là, ce témoignage, d'après le travail de Evert Van de Pol, désormais, ce témoignage s'exerce dans quatre directions différentes, quatre domaines. Un peu comme si c'était les quatre points cardinaux de la mission de l'Église. Le premier domaine, eh bien, c'est le témoignage de notre mode de vie. C'est le témoignage individuel, je dirais. C'est-à-dire, comment vivons-nous? Est-ce que dans ma vie, j'applique les principes, les valeurs de l'Évangile? C'est le premier témoignage. Pourquoi? Parce que si j'ai une vie complètement désordonnée, que je me vautre dans le péché, il est clair que le témoignage ne sera pas terrible, hein, pour témoigner de l'Évangile. Donc c'est la première chose. Et vous voyez la responsabilité que chaque chrétien a, parce que comme je vous l'ai dit, chaque chrétien est missionnaire. Chaque chrétien est appelé à témoigner. Mais il peut aussi, un chrétien peut aussi contre-témoigner en ayant une vie pas franchement brillante, ou en tout cas qui ne respecte pas la parole de Dieu, non seulement il ne témoigne pas de l'Évangile, mais il fait un contre-témoignage. Donc vous voyez, c'est le premier domaine, le domaine le individuel, témoignage individuel. Le deuxième mandat, comme dit Evert Van de Poel, le mandat de missionnaire, eh bien c'est le témoignage communautaire. C'est-à-dire, nous sommes constitués en Église. Alors là, je l'ai dit souvent, enfin personnellement, on n'est jamais chrétien tout seul. Un ermite, pour moi, c'est un non-sens. On n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien en communauté, la communauté des frères et des sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le témoignage communautaire? Eh bien, c'est le « voyez comme il s'aime ». Le Seigneur a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et dans l'esprit de Jésus, c'est vous donnerez envie aux gens qui vous regarderont vivre, disant, mais dans cette communauté-là, il y a de l'amour, il y a du pardon, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a des attentions les uns pour les autres. Moi, j'ai envie d'y être. Alors, l'évangile, oui, c'est bien joué, mais déjà, j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'en faire partie. N'est-ce pas? Voilà le témoignage. Alors vous comprenez bien que là aussi, dans une communauté, dans une église, s'il y a des tensions, des jalousies, même pire, il y a des luttes de pouvoir. Ouais, parce que l'église est parfois un lieu où on exerce le pouvoir, n'est-ce pas? Sur les âmes, sur les... le pouvoir. Ben, cette église-là, elle ne fait pas franchement envie. Donc c'est là aussi un contre-témoignage, n'est-ce pas? Voilà le deuxième mandat missionnaire. Alors le troisième, quel est-il? Je vous ai dit, il y en a quatre. Hein. Le troisième, c'est le mandat du service. Le témoignage par le service. Allez-vous-en apprendre, enseigner l'évangile à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui est dans la panade, à quelqu'un qui est dans la tristesse, qui a des gros problèmes matériels, des problèmes de santé, etc., etc. Comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, la mission de l'Église, elle se situe aussi à ce niveau, c'est-à-dire entrer dans le, nous on appelle ça le diaconat, le service, l'entraide, et les missionnaires l'ont compris depuis longtemps, et je dois dire, par honnêteté, que là nous avons des notes à prendre, enfin, des exemples à prendre chez nos frères catholiques, parce que l'Église catholique a eu depuis très très longtemps cette tradition de ce qu'on appelait de charité. J'évite le terme parce que charité, ça a pris un ton, une connotation peu condescendante, charité, l'aumône, vous voyez. Non, la charité, c'est l'exercice de l'amour dans ce qu'il y a de plus matériel. Tu as faim, je t'apporte à manger. Tu es dans la difficulté, je t'apporte de quoi vivre, etc. Voilà. Ça remonte peut-être à Saint Vincent de Paul, n'est-ce pas, auprès des pauvres, mais plus récemment, vous voyez la mère Teresa, l'abbé Pierre, etc., enfin des figures, pour prendre des figures connues. Mais il y a cette tradition chez nos frères catholiques sur laquelle nous pouvons nous inspirer, parce qu'on a peut-être des leçons à prendre de ce côté-là. Alors, ça c'est le troisième mandat missionnaire. Témoignage par le service auprès de ceux qui en ont besoin. Et puis il reste un quatrième mandat, ben évidemment, c'est l'enseignement de la parole. Ah, je ne pourrais quand même pas l'oublier. Hein. Mais vous voyez, il ne faut pas être tout seul. Et je pense qu'on a peut-être. On fait peut-être trop facilement l'erreur de dire bon, il faut évangéliser, alors. Allez, on va enseigner, alors pourquoi pas dans les rues, alors avec. Lors de spectacles, etc., on enseigne l'évangile. Oui, c'est bien. Mais si les trois autres mandats missionnaires sont négligés, c'est comme un cheval qui n'aurait plus qu'une seule patte. Hein. Il aurait des difficultés à avancer, n'est-ce pas, hein. Un cheval, je crois bien qu'il a quatre pattes, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Il a besoin de ses quatre pattes, à la limite trois, il y arrive encore, mais pas plus, pas moins. Hein. Voilà. Donc, quatre domaines de témoignage pour pouvoir être missionnaire dans l'esprit dans lequel Jésus nous envoie. Alors ça, c'est des remarques assez générales. Maintenant, on peut regarder un peu notre église, par exemple, notre communauté. Eh bien, on peut reprendre un peu ces quatre réflexions, se dire, alors là c'est chacun pour soi, mais est-ce que chacun doit se dire, est-ce que je suis témoin de l'Évangile? Est-ce que je témoigne vraiment de l'amour du Seigneur pour le monde au travers de ma vie? Question que chacun doit se poser. Mais en même temps, il appartient quand même à la communauté. Je vois ça par exemple dans certaines épîtres, notamment de Paul, où il recommande d'aller reprendre un frère ou une sœur qui vivrait dans le désordre, et peut-être même de l'exclure, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible, de l'exclure s'il ne veut pas entendre raison. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez bien que les gens sont capables de juger toute une communauté à partir d'un individu qui fait n'importe quoi. Regardez, les chrétiens, regardez. Oui, je prends un exemple. L'église catholique, oh, tu es pourri comme église, regardez, les prêtres sont pédophiles, etc. Mais non, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un pourcentage infime qui commettent ce péché, eh bien on juge toute une église à partir de là. Donc, il relève quand même de la responsabilité de toute la communauté que chaque individu dans la communauté soit, j'aime pas dire en règle, mais en fait, soit quand même en phase avec les valeurs de l'Évangile. Bon. Et puis toujours, bien sûr, dans notre communauté, comme à Thiers, eh bien, posons-nous régulièrement aussi la question, pour ce qui est du deuxième niveau de témoignage, est-ce que la vie communautaire est un reflet Je vais revenir un peu en arrière. Le mois dernier, vous vous souvenez, la lettre aux églises, c'était le règne de Dieu, le royaume. Et il a été dit que l'église devait être un peu l'avant-poste du royaume des cieux. C'est-à-dire comme une sorte de petit trou de la serrure où on commence à entrepercevoir le royaume des cieux. Ben, laissez-moi vous dire que certaines communautés, elles n'encouragent pas à prendre un ticket pour le royaume des cieux. Hein. Quand on voit des jalousies, des tensions, des frictions incessantes, etc., dans certaines églises. Alors, ici à Thiers, posons-nous régulièrement la question, est-ce que nous vivons vraiment dans l'amour que le Christ a voulu pour nous et qui permet que, de l'extérieur, on se dise, des disciples du Seigneur. Question. Le troisième mandat, le service, eh bien, là, il ne faudrait peut-être pas le négliger non plus. Alors, on a réactivé le diaconat, vous voyez, c'est une façon de témoigner aussi dans tout ce qu'il y a de plus matériel au niveau de l'argent, au niveau de l'entraide, etc. Là aussi, beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on peut vraiment se présenter comme les témoins de l'amour de Dieu si on n'a pas de compassion pour ceux qui ont des problèmes sur cette terre, des problèmes tout à fait matériels? Et puis ensuite, le mandat d'évangéliser. Alors ben là, on s'est pris par la main depuis quelques années, mais vous voyez rien n'est facile. Et l'évangélisation, on s'est beaucoup interrogé, on s'est formé, on a demandé à des gens de venir nous enseigner. Et je crois qu'il nous faut continuer dans ce sens, continuer à prier, continuer à se former, continuer à avancer dans ce sens. Je me dis que peut-être nous avons eu, vous vous souvenez qu'on avait organisé des parcours alpha, des choses comme ça, et on n'a pas eu l'impression que ça démarrait vraiment. Peut-être parce que les trois autres domaines de témoignage n'étaient pas tout à fait au point. Alors celui-là, même si on y mettait toute notre énergie, il était un peu bancal parce que tout seul. Voilà, je vous ai résumé la réflexion de Paul par rapport à cette mission de l'Église. Je voudrais terminer avec une note joyeuse. Alors je me suis dit, c'est vrai que, je vous l'ai lu tout à l'heure, ces deux derniers versets de l'évangile de Matthieu sont encourageants, parce que le texte de départ, c'était que le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà la mission de l'Église. Mais vous avez remarqué que j'ai pris le soin de lire celui qui suit. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et alors là, je me suis dit, oui, c'est vrai que la mission est difficile, que nous sommes obligés de constater que nous ne sommes pas toujours à la hauteur, c'est vrai, mais il y a ce verset 20, le Seigneur est avec nous. Et dans le fond, est-ce qu'il ne dit pas quelque chose ici de très précis? Comptez sur moi. Ne comptez pas sur vos forces, comptez sur moi. Et en comptant sur moi, là, vous réaliserez le témoignage dans les quatre domaines, autant que vous voulez. Là, vous réaliserez ce témoignage pleinement. Là, vous serez, à ce moment-là, une église missionnaire. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Seigneur, soit nous te demandons, reste avec nous jusqu'à la fin et aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions véritablement être témoins de ton évangile et donc missionnaires au sens où tu l'as commandé à tes disciples. Amen.